Bonjour tout le monde, très très heureuse d'être avec vous ce matin et tout de suite, je suis obligée de souligner l'excellent travail de l'équipe Normand Gem, Isabelle Laure, Maxime Paquet. Je le dis tout de suite parce que, vous le savez, des fois l'émission finit, un invité est en train de parler, on n'aura pas le temps, mais pour vous donner une petite idée de comment ça se passe, d'abord ça fait 2h30 et plus que l'équipe travaille pour cette émission que je m'apprête à vous livrer en leur nom, et j'avais oublié mes écouteurs. Et on est supposé avoir chacun nos petits appareils en ce moment, COVID oblige. Eh bien, Normand a couru comme un fou pour aller me chercher ça. Et me voilà avec mes écouteurs. Alors, je vous le dis, l'équipe, c'est exceptionnel. Alors, c'est important de le souligner parce qu'une émission de radio, vous le savez, ça se fait pas tout seul. Alors, ce matin, chers auditeurs, trois super sujets. J'aurais vraiment hâte de vous entendre là-dessus parce qu'une des raisons qui fait que j'aime tant venir remplacer Isabelle de temps en temps, c'est pour vous entendre. On va parler donc ce matin de la famille. C'est la Semaine québécoise des familles. On va en profiter pour vous demander comment la pandémie a changé votre famille pour le meilleur ou pour le pire. Autre sujet qui commence à devenir un peu répétitif, puis c'est pas le fun du tout, un autre vol de données. Cette fois, ça touche même le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et des milliers de parents et d'enfants qui sont inscrits dans un guichet unique, tout simplement pour avoir une place en service de garde. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ça cesse? Ces deux sujets-là, on les garde pour la deuxième heure. Pour cette première heure, on apprend ce matin que l'objectif de 75 % des 12 ans et plus, donc des 12 ans jusqu'au centenaire, de Québécois vaccinés pourrait être atteint plus tôt que prévu. On parle de 2 semaines de plus tôt. On parlait de la Saint-Jean. Là, on parle de la mi-juin. En fait, autour du 10-12 juin. En ce moment, on est à 42 % de gens vaccinés au Québec. Et ça, c'est formidable, mais on apprend aussi que dans certaines zones de la ville de Montréal, certaines zones de villes avoisinantes, le taux de vaccination est franchement bas. Alors, notre question ce matin, qu'est-ce que vous faites, vous, pour convaincre les sceptiques du vaccin? Est-ce que vous êtes vous-même un sceptique? Ça sera le temps d'appeler parce que je vais avoir trois bons invités, vous allez voir. Alors, quelle est la meilleure méthode pour qu'on arrive à ce 75 % et même plus, qu'on joigne plus facilement les gens, par exemple, de communautés où on maîtrise un peu moins bien le français et l'anglais? J'ai appris ce matin que la campagne de vaccination était traduite en 21 langues au Québec. Alors, là-dessus, nos invités, tout d'abord, dans l'ordre, parce qu'on va les faire un à la fois, le docteur Richard Marchand, microbiologiste infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Il y aura le docteur Mathieu Simon, tout à l'heure, pneumologue, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, ce qu'on appelait autrefois l'hôpital Laval, et Benoît Barbeau, virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM. Je commence donc par le docteur Marchand. Docteur Richard Marchand, bonjour.
Bonjour, Madame Lavallée.
Alors, ce matin, on s'adresse beaucoup aux indécis. J'espère qu'ils seront nombreux à appeler parce que j'aimerais bien que vous puissiez répondre à leurs doutes, à leurs inquiétudes. D'après vous, c'est la peur du vaccin? Parce qu'il me semble que la peur de la COVID devrait être plus forte que la peur du vaccin, non?
Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. En fait, les mieux placés pour vous répondre, ce serait probablement un psychologue ou un sociologue ou quelque chose du genre comme tel, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Vous savez, les infectiologues que nous sommes, on est dans le domaine des antiseptiques. C'est qu'on cherche à convaincre les gens qu'entre deux risques, il faut toujours choisir le moindre, et celui du vaccin est en général moindre par rapport à celui de la maladie. Mais il y a, d'après les études sociologiques, il y aura toujours un 15 % de gens qui va être extrêmement difficile à convaincre et qu'en général, on ne convainc pas autrement que par une obligation légale, par exemple. Et comme on ne peut pas obliger les gens de se faire vacciner au Canada, c'est dans notre constitution, bien, il y a ce 15 %-là qu'on peut essayer de convaincre, mais ça va être extrêmement difficile. Puis parmi les arguments, bien, il y en a qui ont tout simplement peur. La peur d'une piqûre. Moi, je peux vous dire combien de fois à l'hôpital, on voit des gros costauds là, de 200 livres et plus tomber dans les pommes juste à voir l'aiguille.
Oui, en effet. La peur de l'aiguille.
Il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont des raisons très légitimes. Il y en a dans le... Peut-être le 20 % là, qui refusent, il y en a peut-être un 5 à 6 % qui ont des raisons très légitimes à cause de maladies, à cause de médicaments, à cause de toutes sortes de choses. Puis il y a un 15 %, comme je vous ai dit, soit qu'ils ont peur, soit qu'ils s'opposent à tout parce qu'il y a, une espèce de croyance des fois qu'il faut tout faire pour s'opposer à l'État, s'opposer aux recommandations générales. Il y a ceux qui sont l'opposition systématique de tout ce qui est une recommandation sociale. Bien, en fait, c'est beaucoup d'éléments, à mon avis, qui sont sociologiques. Puis finalement, après ça, il y a aussi les conditions qui sont financières et socio-sanitaires. il y a des, comme dans certains quartiers de la ville, les personnes sont difficiles à rejoindre, des fois pour des raisons qui sont économiques. Vous ne pouvez pas vous absenter du travail parce que vous êtes pris à travailler de jour et une simple absence peut vous faire perdre une demi-journée de revenus
qui fait
que vous en arrachez. Et donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça.
Oui, et puis, Dr Marchand, j'allais rajouter que souvent, ce sont eux qui sont les plus à risque parce qu'ils travaillent souvent collés sur plein d'autres mondes, dans des usines ou dans toutes sortes d'autres endroits où est-ce que le vaccin sera encore plus important pour eux. Le fait que la campagne de vaccination soit traduite en 21 langues, on peut imaginer que ça ne peut pas nuire.
Non, ça ne nuit pas, ça va même aider. Ceci dit, ce qui va aider beaucoup pour les conditions, mettons, socio-sanitaires ou encore économiques difficiles, c'est les employeurs. Si les employeurs décident de donner un coup de pouce, ne serait-ce que de libérer le personnel pendant 3-4 heures sans leur faire perdre de revenus, ça ferait déjà un avantage magistral pour certains, en tout cas. Ça serait très important. Et c'est là qu'arrive le rôle aussi des employeurs et des différentes entreprises dans la capacité d'aider la société à s'en sortir.
Tout à fait. Avant de vous poser ma prochaine question, je veux inviter les gens à nous appeler 514-790-9850, 790-9850. Soit que vous nous dites, vous, ce que vous avez fait ou continuez de faire pour convaincre les gens autour de vous qui sont indécis, qui sont pas sûrs de vouloir être vaccinés, qui ont peur. Et si vous appelez de l'extérieur de Montréal, que vous nous suivez sur le web ou autrement, 1-866-790-9850. J'ai remarqué, Dr Marchand, autour de moi, dans quelques cas de gens qui sont issus de dictatures, qu'ils ont tendance à être contre le vaccin justement parce qu'il n'y a personne qui va me dire quoi faire dans ma vie. Et ça, c'est plus difficile d'aller convaincre quelqu'un qui a ce genre de croyance-là.
Absolument. En fait, c'est notre position ou notre perception comme individu face à la société et à la partie de la société. Si on est convaincu que nous, on n'amène pas le virus, on ne peut pas contaminer personne, on va avoir tendance, surtout si on a moindrement peur des aiguilles, on va avoir tendance à ne pas vouloir se faire vacciner. Et ça, c'est un peu une erreur parce que avec les droits qu'on a, c'est-à-dire on a le droit de se faire soigner si on est malade, mais le droit de se faire soigner au Québec, il s'accompagne aussi de la responsabilité de ne pas transmettre la maladie à d'autres. Donc, avec chaque droit, il y a une obligation. Et des fois, on oublie cet aspect
tellement important.
Qui est important, oui.
Tellement important, c'est-à-dire, moi, je l'ai souvent dit en ondes l'été passé, puis au fait, quand je remplaçais à l'émission d'après-midi, si vous n'avez pas le goût de le faire pour vous, faites-le pour les autres, faites-le pour les gens que vous aimez autour de vous, si vous avez des personnes plus âgées autour de vous qui sont en effet plus à risque, etc., bien, il me semble que c'est un geste de responsabilité sociale, tout à fait. C'est ça. Donc, convaincre les gens, c'est pas évident. Certains ont peur. Vous parliez des aiguilles, Docteur Marchand, moi, j'ai un petit truc à donner qui vaut ce qui vaut, mais je ne regarde jamais quand on me pique. C'est-à-dire, je regarde à côté, je regarde ailleurs, puis la personne me dit, dans 3, 2, 1, puis je prends une bonne respiration, puis c'est fini.
Oui, mais ça, c'est la peur, c'est pas facile à contrôler. Prenez la peur des avions, par exemple, comment il y en a qui sont absolument incapables d'embarquer dans un avion. Et pourtant, s'il y a un moyen de transport qui est sécuritaire sur la Terre, c'est bien celui-là.
Tout à fait.
Vous savez, les peurs, les émotions, c'est difficile à contrôler.
Tout à fait.
Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça se résonne pas souvent.
En effet, puis il y a Simon au téléphone, justement, qui veut se joindre à la discussion pour nous parler des aiguilles. Simon, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, chez vous, on a peur des aiguilles?
Oui, moi, dans ma famille, il y a quatre. J'en ai quatre qui ont peur. Mais c'est pas seulement qu'ils ont peur. À chaque fois qu'ils faisaient un test sanguin ou quelque chose, faut qu'ils se piquent, mais ils perdaient connaissance pendant 15-20 minutes. Ils restaient comme inconscients. Puis là, il fallait l'avertir, l'infirmière ou le médecin avant. Puis là, ils se préparaient parce qu'ils tombaient inconscients. Puis ils ont vraiment peur. Fait que là, moi, je me suis vacciné, j'ai aucun problème, ça n'a rien fait, j'ai rien senti, ni de l'aiguille, ni du vaccin lui-même, ça a bien été. Sauf que je me demande si peut-être M. Legault ou M. Trudeau, ils peuvent commander des vaccins en pilule, puisqu'on en voit comme il y a deux compagnies, il y en a une à Vancouver, puis l'autre aux États, qui ont rendu à troisième étape avec les pilules.
Bien, M. Simon, je vais demander tout de suite à Dr Marchand, vaccin en pilule, je vous avoue que pour moi, c'est une nouveauté.
Non, c'est pas une nouveauté. C'est quelque chose. En fait, les technologies qui nous permettent de développer ce genre de vaccin-là. Puis, je vous ferai remarquer qu'il y en a un qui est connu depuis longtemps, le vaccin Sabin contre la polio, depuis 1963,
c'est bien
qu'on donne
vrai.
En goutte.
C'est bien trop vrai.
Et ça sera de toute évidence la solution pour les pandémies parce qu'on se rend compte que actuellement il y a d'abord un manque d'aiguilles à l'échelle internationale, il y a un manque de seringues, en plus d'un manque de vaccins. Donc vacciner des milliards de personnes avec des aiguilles et des seringues, c'est extrêmement complexe, alors que une pilule ou quelques gouttes là à prendre par la bouche, si ça peut faire le travail, ça serait absolument fantastique. Et c'est certain qu'actuellement sur la planète là, il y a au moins 5 ou 6 compagnies qui sont en train de développer des futurs vaccins qui pourraient être donnés par la bouche.
Mais ça serait
Il y en a même une au Québec qui est en train de faire la même chose.
Ça serait tellement, tellement plus simple. Une chose que je voulais vous dire aussi, Dr Marchand, c'est que bon, moi j'ai été pour mon vaccin au Stade Olympique pour ne pas le nommer, et ben c'est des chaises tout ça. Mais est-ce que pour des gens comme la famille de Simon ou les proches de Simon, il y a dans ces endroits-là aussi des civières où on pourrait dire à la personne, bon, mais vous êtes sensible à ça, vous risquez de perdre connaissance, on va vous installer sur une civière pour vous vacciner. Moi, j'ai pas vu ça.
Oui, mais il y en a des civières pour ceux qui, effectivement, qui s'arrivent et qui n'étaient pas attendus. Ceci dit, on ne fait pas systématiquement. Quand on veut, dans un contexte de pandémie, vacciner beaucoup, beaucoup de personnes, on va se garder plus vers pour la fin, ceux qui pourraient perdre connaissance, ceux qui pourraient nécessiter des conditions plus particulières pour la vaccination. Puis regardez, dans les derniers jours, il y a eu un service de vaccination pour personnes qui avaient des problèmes particuliers, des handicaps de toute nature. Et là, ça prouve qu'on avance dans notre campagne et qu'on peut commencer à prendre le temps que ça prend, parce que c'est beaucoup plus long vacciner ces personnes-là, se mettre en condition pour contrôler notre risque. Et là, bon, on en vaccine moins, alors qu'en pandémie, c'est comme un temps de guerre. Il faut en vacciner le plus possible, sans égard aux petits problèmes qu'il pourrait y avoir, même si des fois, ils pourraient être très dérangeants, là. Il faut aller vite parce que c'est un temps de guerre. C'est ça.
En effet. Docteur Richard Marchand, avant de vous laisser aller, avant de vous laisser retourner à vos patients, je lis ce courriel reçu de Myriam qui dit « Bonjour, personnellement, j'étais très sceptique par rapport au vaccin, peur des aiguilles aussi, mais j'ai pensé aux personnes que j'aime autour de moi, j'ai choisi de les protéger, de ne pas être égoïste, ça va au-delà de soi. » Je pense que c'est une belle façon de finir notre petit bloc ensemble. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission, Docteur Richard Marchand, microbiologiste infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal.
Bonjour, ça me fait plaisir.
Merci beaucoup encore. Il est 10h18, on va s'arrêter pour une petite pause et au retour, on va parler à un médecin de Québec, Dr Mathieu Simon, pneumologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Restez des noms. Ah, je vous donne le numéro de téléphone aussi, 790-9850, soit dans le 514 ou 1-866 avant si vous n'appelez pas de Montréal. Il est 10h22, un petit courriel de Anne qui va vous faire sourire avant de poursuivre l'émission sur quoi faire pour convaincre les indécis ou encore ceux qui ont peur des aiguilles. Anne nous écrit, pour sourire un peu, « Quand je suis allée me faire vacciner, un groupe de pompiers est arrivé. Deux pompiers jeunes et costauds ont hyperventilé. Ils ont dû être placés sur des civières. » Quand même, c'est sympathique, non? Donc, ça veut dire, si vous avez peur des aiguilles, sachez que des costauds aux pompiers qui font face à toutes sortes de situations extrêmement dangereuses, extrêmement épeurantes, ils vont, et même s'ils ont peur, et même s'ils perdent connaissance, même s'ils tombent dans les pommes, ils le font pareil. Pourquoi? Ben parce qu'ils veulent se protéger et protéger les gens autour d'eux. À noter qu'il y aura un point de presse 13h cet après-midi, avec le trio habituel, c'est-à-dire François Legault, premier ministre, Christian Dubé, ministre de la Santé, et Horacio Arruda, qui est responsable donc de la santé publique, qui seront donc tous les trois à 13h et nous présenterons ce point de presse en direct comme à l'habitude. Donc maintenant, on a avec nous le docteur Mathieu Simon, pneumologue, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Dans mon temps, on appelait ça l'hôpital Laval. Docteur Simon, bonjour.
Bonjour, Mme Lavallée.
Vous allez bien?
Très bien, heureux de vous retrouver.
Bien, ça me fait grand plaisir aussi. Dites-moi, 75% là, on veut atteindre ça, donc 2 semaines plus tôt que prévu, donc 2 semaines avant la Saint-Jean-Baptiste. Mais là, on parle de 75% d'une première dose. Est-ce que pour vous, c'est déjà exceptionnel?
C'est une excellente nouvelle. L'adhérence habituelle au vaccin dépasse rarement les 70%, même en milieu hospitalier. Alors, que le Québec se soit mobilisé comme ça, qu'il y a eu une excellente réponse malgré tous les doutes qui ont été soulevés. Moi, je suis très heureux de ça, puis ça commence à payer. Les hôpitaux se désengorgent, on revient vers nos pratiques usuelles, puis les patients qui n'ont pas le COVID peuvent enfin être traités de façon plus ouverte. Alors, écoutez, c'est un succès, puis je félicite l'ensemble des gens qui ont dit oui à la vaccination, qui n'ont pas eu peur des aiguilles. Puis je peux vous dire que les personnes qui disent non à la vaccination, qui vont se retrouver malades avec le COVID, moi, aux soins intensifs, j'ai beaucoup de très, très grosses aiguilles qui vont leur faire malheureusement très mal. Donc, essayez de les éviter, si possible, en vous faisant vacciner. Mieux vaut une aiguille qu'une centaine d'autres.
Oui, et puis j'allais justement dire, vous me devancez, Dr Simon, vous qui travaillez là, donc aux soins intensifs comme pneumologue, je ne veux pas faire exprès pour faire peur au monde absolument, mais décrivez-nous quand même un petit peu là, le genre de situation. C'est-à-dire quand ces gens-là, en fait, arrivent à un moment où est-ce qu'ils n'arrivent plus à respirer d'eux-mêmes. Là. Ils étouffent.
En fin de compte, le COVID, ce que ça réalise, c'est une pneumonie extrêmement sévère qui fait baisser les taux d'oxygène dans l'air toute l'air du poumon. Et les patients deviennent hypoxémiques, donc ils manquent d'oxygène à leur cerveau. Ils se rendent pas compte qu'ils sont essoufflés, Mme Lavallée. C'est ça le danger. Puis c'est ça qu'on a vu dans la troisième vague. C'est des patients relativement jeunes qui ont une bonne réserve physique et qui arrivent. Écoutez, ils ont des taux d'oxygène dans le sang sont équivalents à monter l'Everest sans bouteille. Vous avez tout en tête, oula, cette idée où tu fais 10 respirations pour faire un pas avant de conquérir les quelques derniers mètres de l'Everest. Mais ils sont exactement comme ça, mais ils s'en rendent pas compte parce que la maladie fait que leur cerveau fonctionne pas à pleine capacité. Donc, incroyable. Ils se sont présentés très tard. Ils ont été malheureusement placés pour beaucoup d'entre eux sur respirateur artificiel. Mais bon, la très grande majorité s'en sortent. L'autre bonne nouvelle qu'on peut partager, c'est que au Québec, on a un des meilleurs taux de survie à un épisode de COVID aux soins intensifs qui avoisine les 85%, ce qui est exceptionnel à travers le monde.
T'sais. Oui, ce qui ne veut pas dire que c'est de tout repos, comme vous dites. Là. Il y a des aiguilles en masse, puis on ne veut pas se rendre là.
Oui, puis vous voyez la littérature qui commence à être publiée, notamment en France cette semaine. On parle de 60% des personnes qui ont survécu au COVID. On ne parle pas nécessairement des COVID sévères qui sont allés aux soins intensifs, qui conservent à 6 mois des séquelles sous forme de fatigue, d'essoufflement, de malaise musculaire. C'est quelque chose de faire la COVID, puis c'est pas court de s'en sortir, même si on va pas aux soins intensifs. Là.
Bon, eh bien, on a Martin au téléphone, Dr Simon, qui semble peu pressé de se faire vacciner. Peut-être que vous allez réussir à le convaincre. On vous écoute. Bonjour.
Oui, bonjour, merci. Moi, c'est juste la confiance. Je vais y aller, ça c'est sûr, parce que c'est un devoir. Mais pourquoi je tarde? Je regarde là comment que ça se passe, mais c'est vraiment la confiance. J'ai aucunement confiance à ce que soit M. Arruda, soit M. Legault. C'est tout simplement ça, la confiance.
Manque de confiance, mais dans le vaccin comme tel, là, vous vous dites...
Pas juste le vaccin, mais ce qu'on me dit, ce que les gouvernements vont me dire, ce que les spécialistes vont dire, tu sais,
okay.
C'est ça.
OK, puis quand vous entendez...
Mais c'est sûr que je vais y aller, ça c'est sûr.
Oui.
Mais pourquoi je tarde, c'est je regarde un peu autour de moi, la réaction, les amis qui se font vacciner, les collègues de travail, leur réaction.
Vous êtes dans quel groupe d'âge, Martin?
48 ans.
48 ans, OK. J'aimerais...
Oui, excusez, allez-y.
Non, j'allais dire, je voudrais voir ce qu'a à dire le Dr Simon à vos arguments quand même, mais je veux vous laisser quand même finir votre phrase. Vous aviez commencé quelque chose, Martin.
Oui, puis je sais qu'il y a un vaccin. J'ai des amis qui ont été vaccinés par le même vaccin, puis ils ont tous passé un 3-4 jours assez terrible.
OK. Alors, Dr Simon, quoi répondre à Martin?
Bon, Martin, c'est quelqu'un qui a besoin d'être convaincu, puis je comprends tout à fait son désarroi ou son incertitude, parce que ce qu'on a vu dans le public au cours des 14-15 derniers mois, c'est des valses hésitations. Mais c'est malheureusement la seule chose qu'on pouvait attendre d'une situation qui était médicalement et sociétairement nouvelle. Une pandémie, on n'a pas traversé ça depuis 1917-1918, ouais. Et il reste pas grand monde. Il y a personne qui a écrit un textbook de procédure et il y a personne qui peut nous dire avec certitude les réponses à long terme. Là, ce qu'on sait présentement sur le vaccin, c'est qu'il est très, très, très largement sécuritaire. Les 4 vaccins disponibles sont tout aussi efficaces l'un que l'autre. On exclut le chinois et le Sputnik russe, qui sont moins bons. Les risques sont infiniment plus faibles que celui de faire la maladie. Et effectivement, il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont vaccinées, font une réponse inflammatoire qui ressemble un peu à une petite grippe là, qui dure pendant 24 à 72 heures, qui se manifeste par une douleur musculaire, un peu de fatigue.
Et qui indique que le vaccin fonctionne dans un sens.
Qui indique que votre immunité... Exactement, qui indique que c'est une bonne nouvelle, qui indique que l'immunité est en train de se créer. Donc, c'est une excellente nouvelle. Enfin, c'est difficile à traverser, mais beaucoup moins difficile que le COVID. Et ça vous garantit que le vaccin, justement, va être efficace chez vous.
Oui. Il y a Joanne qui est convaincue, elle, qui dit la vaccination, c'est bien plus, ça résume ce que vous disiez, bien plus problématique et douloureux que de se faire intuber pendant 3 semaines et plus et de devoir être mis dans un coma artificiel ou un coma volontaire et de risquer de rester avec des conséquences à long terme. On en voit encore ce matin un patient dans la jeune quarantaine là, qui a été longtemps intubé aux soins intensifs et tout. Alors donc... ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, qui préféreraient avoir ce genre de situation, elle ne les comprend pas. Et puis un autre message, attendez, je vais le lire ici rapidement. Lors de ma vaccination, vu que je suis moumoune pour les aiguilles, ils m'ont offert un lit et j'y suis restée pour 15 minutes. Après, ils ont été très bien intentionnés. Donc, voilà, ça c'est Daniel qui nous écrit ça. Jean est au téléphone. Jean, vous n'avez jamais eu de vaccin de votre vie?
Ben oui, les vaccins quand j'étais enfant.
OK.
Mais à part ça, les vaccins contre la grippe, ces choses-là, je suis rendu à 63 ans, je prends aucun médicament, même pas pour la pression, même pas pour le cholestérol. Et puis, là, on me dit que ça me prend un vaccin pour me prévoir d'une maladie mortelle.
Alors.
Il faut que je me fasse tester pour savoir cette maladie-là.
OK. Et puis, vous prenez même pas les vaccins pour la grippe, là, à chaque année?
Non. Ben non. Toutes les années, souvent, ils vont dire que, bon, mais c'est pas la bonne souche qu'on vaccine.
OK. Docteur Mathieu Simon, pneumologue, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire et de cardiologie et pneumologie de Québec. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Jean qui ne prend pas le vaccin contre la grippe et qui se dit que pourquoi il prendrait celui-là vu qu'il est en parfaite santé?
Jean a raison. Pour lui... Même si le bénéfice est calculable très clairement, il y a 60 fois plus de chances de mourir de la COVID que d'avoir une complication d'un vaccin. Donc déjà là, il y a un ratio 60 pour 1, ce qui est assez rare dans les loteries, casinos et autres choses de cette planète.
Ouais.
Et même si, effectivement, quand tu te vaccines contre l'influenza, qui est une maladie infiniment moins sévère et moins contagieuse que le COVID, ben, tu te vaccines pour toi, mais à 63 ans, pas de comorbidité, le bénéfice personnel est pas très grand. Dans le COVID, il y a un bénéfice personnel qui est important, mais il y a surtout un bénéfice sociétaire, c'est-à-dire que notre auditeur, en se faisant vacciner, ben, il empêche le virus de se propager dans la société à des personnes plus vulnérables qui n'ont pas la chance d'être aussi en forme que lui à 63 ans.
Mm-hmm.
Et l'autre chose, c'est que si on est, je sais pas, on garde un 20-25% de la population qui n'est pas vaccinée et qui, pendant l'été, se propage un peu le virus, qui n'en tireront pas nécessairement des conséquences très fâcheuses personnelles. Il va en avoir qui vont se retrouver très malades, mais c'est pas tous, c'est une minorité. C'est 4% de la population qui est atteinte. Mais on va se retrouver à l'automne avec un parc de patients, de personnes qui propagent la COVID. Là, on va rentrer dans les écoles, rentrer dans les milieux de travail, puis on va avoir une quatrième vague. Cette quatrième vague-là, est-ce qu'elle va être avec un variant qui va être plus résistant au vaccin? Donc, on va développer un vaccin, se refaire vacciner, reconvaincre les gens de se faire vacciner qui sont toujours pas convaincus.
Ouais,
et on va traîner ça pendant une éternité. On peut mettre fin à la COVID là, maintenant. La seule façon de le faire, c'est d'aller se faire vacciner. Donc, tous les gens qui disent, écoutez, c'est pas pour moi, puis je veux revenir à une vie normale, ben oui, c'est pour vous parce que vous voulez revenir à une vie normale.
Exact.
Puis il n'y a pas de 5G, il n'y a pas de contrôleur d'esprit, il n'y a pas de code barre dans le vaccin. C'est un produit qui est efficace, sécuritaire et qui est la seule voie de sortie de cette crise sanitaire-là.
Ouais, moi, des fois, aux sceptiques, je leur... Puis qui me disent, c'est du poison, puis c'est ci, puis c'est ça. Je réponds toujours, mais oui, mais regarde la polio. Est-ce que tu aurais envie de souffrir de cette maladie qui a pu être éradiquée ou à peu près? Là, je sais qu'il y a des cas qui reviennent de temps en temps, mais grâce au vaccin. Ici, j'ai Suzanne qui nous écrit, qui dit, j'ai 58 ans, j'ai 3 maladies auto-immunes qui me causent déjà de l'inflammation, beaucoup de fatigue, de douleur, d'anxiété, et je prends parmi mes médicaments 2 qui sont un peu contre-indiqué avec le vaccin. Je crains, mais s'il vous plaît, convainquez-moi. Alors, je vous mets au défi, Dr Simon, et puis après, on va se laisser là-dessus.
Ben, d'une part, Suzanne représente un groupe qui est plus à risque de faire un COVID sévère que la majorité des gens, de par ses maladies inflammatoires qu'elle a de façon chronique. Et d'autre part, il n'y a aucun médicament qui est contre-indiqué face au vaccin. Ça n'existe pas. Le vaccin agit sur l'immunité, la renforce spécifiquement face au COVID-19, mais n'a pas d'impact sur le reste de votre pharmacie, aucunement. Donc, c'est une idée fausse, malheureusement, qui circule. Il n'y a pas d'interaction entre les médicaments qu'on prend et le vaccin. Puis, au contraire, beaucoup de médicaments qu'on prend pour ce qu'on appelle le dossier de Suzanne en particulier, mais il y a beaucoup de médicaments qu'on utilise pour supprimer les maladies inflammatoires qui vous rendent à risque de développer le COVID et d'en développer un sévère. Donc, Suzanne, allez-y, je vous en prie. Je ne veux pas vous voir dans mes lits de soins intensifs ou dans mes lits d'hôpitaux. Pas parce que je vous aime pas, mais parce que je vous aime.
Je vous dis que les courriels rentrent beaucoup, 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 beaucoup. J'aimerais savoir si on n'a pas eu d'effet secondaire avec la prise du vaccin, seulement un mal de bras. C'est un peu mon cas aussi. Si on a juste mal au bras, est-ce que le vaccin fait son effet quand même? C'est Nancy qui nous demande ça.
Tout à fait. Dans la population en général, il y a 5 groupes de réponses inflammatoires qu'on peut montrer. Puis, c'est pas parce que tu as une réaction plus forte que tu es nécessairement plus immun. Ça fait juste te donner une démonstration que ton système immunitaire a été sollicité. Et ça veut pas dire que quelqu'un qui a juste eu mal dans le bras est moins bien vacciné. Il n'y a pas de démonstration de ça, aucunement.
Ben, vous me rassurez moi-même. Docteur Mathieu Simon, on va vous laisser retourner à vos patients. Vous êtes un homme très occupé. C'est très gentil d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes pneumologue, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire cardiologie et pneumologie de Québec. Un énorme merci.
Merci, Mme Vallée, puis merci à vos auditeurs. Je suis sûr qu'on va faire la bonne chose comme société. On l'a toujours fait. Là, on est passé par-dessus nos peurs irrationnelles. Allons vers la solution qui est à portée de bras maintenant.
Pour retrouver une normalité, une vie normale. Merci beaucoup. Alors là-dessus, on va s'arrêter pour une petite pause. Je vous donne le numéro de téléphone pour nous joindre, 514-790-9850. Je crois comprendre que vous avez compris que vous écrivez à l'adresse d'Isabelle habituelle. J'ai la page ouverte. Je ne suis pas du tout dans l'ombre d'une indiscrétion. Sachez que si vous écrivez un message personnel à Isabelle, par exemple, je vais le refermer très, très vite parce que le but, c'est de voir les courriels des auditeurs qui veulent qu'on réponde à leurs questions. J'en ai encore 2-3 autres, là, donc je vais résumer au retour de cette pause et on sera avec Benoît Barbeau qui est virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM. À tout de suite. 10h presque 40 minutes, qu'est-ce que vous faites pour convaincre les indécis autour de vous? Comment on peut convaincre? Est-ce que c'est par la peur? Est-ce que c'est par la menace? Est-ce que, au contraire, il faut y aller en douceur? On va parler à Benoît Barbeau qui est virologue, professeur au département de sciences biologiques de l'UQAM, qui est très, très en demande par les temps qui courent. Bonjour, Benoît Barbeau.
Bonjour, Mme Lavallée.
Merci d'être là. J'ai pas mal de courriels. Je vais tout de suite... Il y a une dame qui nous dit comment sécuriser les gens qui ont surtout peur d'être vaccinés avec l'AstraZeneca et qui n'y vont pas parce que ça leur fait trop peur, cette AstraZeneca. Et c'est Joanne qui nous pose la question. Parce que, comme on dit, c'est peut-être un cas sur 100 000 de thrombose, mais quand on est ce cas-là, c'est moins drôle. Alors, qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont peur?
Moi, écoutez, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'en effet, c'est un événement extrêmement rare, évidemment, 1 sur 100 000. Sauf que si vous êtes une femme et si vous êtes dans un certain groupe d'âge, la fréquence est un peu plus élevée. Mais on ne parle pas de 1 sur 100, on parle de 1 sur 60 000 environ. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours une certaine probabilité qui varie dépendamment, justement, de votre situation. Alors, le vaccin AstraZeneca, dans son ensemble, demeure sécuritaire, demeure en même toujours une option. Et on sait cependant qu'avec le CCNI, donc le fameux comité canadien qui donne des recommandations sur l'utilisation des vaccins, eux ont quand même émis des recommandations qui suggéraient la formulation du communiqué n'était peut-être pas juste, n'était peut-être pas appropriée, mais n'empêche qu'il suggère d'opter pour un autre vaccin si vous êtes dans telle tranche d'âge et puis vous êtes une femme, peu importe. Ceci dit, je rappelle quand même que l'AstraZeneca demeure extrêmement efficace. Mais si vous avez des problèmes d'anxiété, du stress et que même après le vaccin, vous pensez que vous aurez de la difficulté à exister et ça peut arriver, je crois qu'à ce moment-là, vous devriez y réfléchir parce que la réponse immunitaire qui est engendrée par un vaccin ou pas importe quelle infection, en fait, dépend de certaines conditions comme le stress qui peut altérer son efficacité. Alors, si vraiment vous êtes dans une situation où que ça risque d'être, vous êtes dans une crise d'anxiété importante, je crois que là, à ce moment-là, vous devriez possiblement attendre. Mais autrement, soyez informés, prenez une décision informée en fonction de ce qui est disponible. Rappelez-vous que ces probabilités-là demeurent extrêmement faibles. Et puis, le but aussi, c'est de faire en sorte que tout le monde soit le plus vacciné plus rapidement possible.
Oui, puis je pense aussi, j'ai cru bien comprendre que quand on reçoit l'AstraZeneca, on repart avec un paquet de directives là, sur les maux de tête sur les maux de ventre, tout ce qui pourrait être annonciateur de, même si ça ne veut pas dire que c'est ça.
Oui.
Lynn, elle nous dit qu'elle fait une déficience en protéines. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Elle dit qu'elle fait des cailloux veineux. Alors, le vaccin lui fait très, très peur, même si ce n'est pas AstraZeneca. Elle a 58 ans. Donc, elle dit même si je suis une personne sur 100 000, ça me fait peur.
Écoutez, je ne suis pas clinicien, mais consultez si vous avez vraiment besoin d'informations. Consultez avec votre médecin de famille autant que possible. Posez des questions. Vous avez tout à fait le droit de poser des questions. C'est votre devoir de poser des questions si vous êtes hésitant. Et puis, moi, comme j'ai mentionné aussi, l'important aussi, c'est dans la communication. Vous savez, il y a des gens qui sont hésitants face au vaccin et donc, ils ont par rapport à toutes les informations qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux, sur aussi un peu partout sur Internet, les gens commencent à des fois se faire de fausses idées, donc sont peut-être moins bien informés. Alors, c'est important justement que le gouvernement s'assure justement d'avoir des canaux d'information, des canaux de communication plutôt de logique, qui permet aux gens de non seulement recevoir l'information, mais aussi de poser les questions. Et ça, en soi, ce genre d'échange-là devrait être optimisé pour faire en sorte que les gens puissent comprendre. Par exemple, AstraZeneca, comme j'ai mentionné, ça demeure quand même. Et là, on dit des cas de la fameuse déficience de thrombose qui est basée sur ce qu'on appelle la thrombocytopénie. Ce n'est pas une thrombose plus générale, mais n'empêche qu'on sait, justement, comme vous mentionnez, détecter les symptômes avant-coureurs. On est capable de diagnostiquer qui vraiment s'hésite devant cette thrombocytopénie et de la traiter.
D'agir vite.
C'est vrai qu'il y a eu des gens qui en ont décédé. C'est extrêmement malheureux. On parle d'un cas presque sur 1 million, mais n'empêche que ou un cas sur 500 000, dépendamment comment on fait les calculs, mais n'empêche qu'on a grandement avancé, on comprend mieux, et le vaccin en tant que tel demeure extrêmement efficace, a quand même des aspects de sécurité extrêmement rares, mais il faut prendre conscience justement de la rareté du phénomène, mais aussi d'être informé par rapport à cette situation, d'être bien prêt justement, une fois que vous avez reçu le vaccin, de détecter les signes avant-coureurs qui sont évidemment très rares, qui peuvent cependant survenir.
Bon, avant de passer à un autre courriel, nous avons un appel de Martin qui, lui, va nous parler de sa conjointe qui est réticente. Bonjour, Martin.
Oui, bonjour, mais avant, si vous permettez, j'aimerais prendre la balle au bon, parce que concernant l'AstraZeneca, parce que moi, je trouve que les craintes sont nettement exagérées, là, parce que il y a un petit calcul qu'on pourrait faire, là. C'est qu'on dit qu'il y a une chance sur 100 000 d'avoir une thrombose, mais si on fait 11 000 décès fois 100 000, on arrive à 1 100 000 000. Mm-hmm. Que je trouve que ça représente pas mal plus que la population du Québec. Je ne sais pas si vous me suivez.
Oui, tout à fait.
Bon, et puis, c'est ça, concernant ma conjointe, oui, effectivement, mais c'est ça, ma conjointe, nous autres, on a été, quand on s'est fréquentés, on était plutôt dans le vivre et laisser vivre, fait que, disons que je la chale pas trop avec ça, j'aimerais ça qu'elle se fasse vacciner, mais là, elle est réticente, elle dit qu'elle va y aller, mais ça a toujours pas pris son rendez-vous, mais non, elle devrait le faire. Moi, je me demande justement quand ça va venir, on a un fils de 10 ans, je me demande quand ça va venir à son tour, là, peut-être qu'on va avoir une petite discussion. Je ne sais pas si elle, peut-être qu'elle va être craintive.
Oui, parce que ça, on s'en va vers ça. On parle des 12 à 15, l'âge baisse de plus en plus. Monsieur Barbeau, est-ce que vous avez un argument pour convaincre la conjointe de Martin?
Bien, comme je l'ai mentionné, écoutez, on discute tous l'un avec l'autre à savoir justement des points, des avantages d'être vacciné. AstraZeneca, en effet. Évidemment, le problème, c'est que ça date depuis près d'un an ou qu'il y a eu plusieurs situations complexes. À un moment donné, je pense que les 65 ans et plus qui n'étaient pas inclus pour AstraZeneca On est revenu sur cette décision-là parce qu'en effet, les études démontraient que le vaccin était extrêmement efficace. Ceci dit, oui, en effet, je dis, c'est des événements rares. Il y a d'autres événements dans la vie qui vont faire en sorte que vous allez être fort probablement plus sujet justement à décéder. Alors, c'est juste, il faut comprendre justement, mesurer les risques. Le vaccin, comme je l'ai mentionné, je peux pas, chacun entre nous, justement, chaque personne a une vision, une compréhension justement de ce que le vaccin peut amener comme avantage. Et puis les risques, il faut vraiment départager justement à quel point vous êtes à risque de développer une thrombose. Ça, c'est 1 sur 100 000. Mais après coup, rappelons-nous que d'en décéder, je veux dire, c'est encore beaucoup plus rare. Puis donc, d'avoir des complications qui peuvent vous amener justement des séquelles, c'est encore plus rare. Alors, ce 1 sur 100 000-là, c'est uniquement sur les gens vraiment à qui on détecte ce phénomène de thrombose qui est induit par le vaccin. Puis après coup, je veux dire, on est capable justement, comme j'ai mentionné, de gérer en grande partie les personnes qui auront justement ces symptômes-là et faire en sorte qu'avec un traitement qui permet de clarifier, le sang, donc de traiter activement. Dans les prochaines semaines, je crois que même les progrès au niveau de la détection des signes avant-coureurs au niveau des diagnostics et des traitements vont continuer à s'améliorer, bien que je crois qu'on est dans une situation qui est favorable en ce moment. Mais, vous savez, le risque n'est jamais zéro. Sauf que vous devez aussi comparer le risque d'être infecté et puis même d'arriver justement avec des complications qui incluent justement des problèmes de cardio-sanguin.
Tout à fait.
Alors, ceci dit, évidemment, au Québec, on est très avantagé parce qu'on est dans une situation que la troisième vague semble être maîtrisée. Mais n'empêche qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, en termes de développement, justement, à quel point, justement, on pourrait avoir peut-être une hausse des nombres de cas. Mais sachez quand même que la COVID-19, c'est quand même une maladie qui est extrêmement sévère. En tout cas, du moins, les cas les plus sévères. Donc, qui entraîne des problèmes de santé importants. Des gens quand même qui restent pendant des mois, même une année avec des séquelles. Et qu'il y a les fameux caillots sanguins qui peuvent être formés justement comme... Alors ça, il faut y penser sérieusement.
Tout à fait. Benoît Barbeau, virologue, professeur au département de sciences biologiques de l'UQAM. Je vous garde avec moi, si vous voulez bien, jusqu'après cette pause pour continuer cette heure sur comment convaincre les réticents. Vous n'avez pas idée du nombre de courriels que je reçois et de téléphones. C'est vraiment un sujet qui passionne. Alors, on s'arrête le temps d'une petite pause. 790-9850, si vous voulez participer à la discussion et nous dire vos trucs à vous pour convaincre autour de vous. On revient donc avec Benoît Barbeau tout de suite après la pause. Eh bien, on reçoit beaucoup de courriels. Il reste quelques minutes à peine. Il nous reste 3 minutes pour ce bloc de l'émission sur comment convaincre les réticents, les indécis face au vaccin. On est en compagnie de Benoît Barbeau, virologue, professeur au département de sciences biologiques de l'UQAM. Benoît Barbeau, beaucoup, beaucoup de courriels. Je ne veux pas vous coincer, mais des gens qui parlent, un qui parle de PEC 2000, qui lui fait peur, qu'est-ce que ça fait dans le corps, une autre qui parle de syndrome de Guillain-Barré, est-ce que le vaccin est dangereux? Je vous laisse répondre à ces deux aspects-là, si vous le voulez bien, si vous êtes à l'aise.
Ben, c'est ça. Donc, en fait, le PEC 2000, c'est du polyéthylène glycol. C'est un genre de préservatif qui vous permet de conserver votre dose vaccinale plus longtemps. Et puis, il y a eu des évidences qu'il y a des allergies possibles au polyéthylène glycol. Un peu comme, vous savez, c'est un préservatif qui est utilisé donc dans plusieurs solutions. Et puis, en effet, il peut avoir quelques réactions allergiques. C'est extrêmement rare. On a juste à se rappeler, justement, lorsque Pfizer et Moderna avaient débuté leur campagne vaccinale, il y avait eu des personnes qui avaient eu des chocs anaphylactiques assez importants, mais n'empêche que c'est évidemment extrêmement rare. Ceci dit, il ne faut pas trop s'en inquiéter parce que, comme je vous le dis, c'est un phénomène qui est rare. Il y a des gens qui sont plus sujets à avoir des allergies, des histoires d'allergies plus importantes. C'est un composé qui est normal. Et rappelez-vous aussi que lorsque vous recevez une quantité de votre dose vaccinale, on ne parle pas d'une quantité énorme. Là. C'est un petit volume qu'on vous injecte. Et puis, tout ce qui est inclus, évidemment, dans votre dose vaccinale pour le conserver plus longtemps, eh bien, il est rapidement dilué dans votre corps. Et puis, donc, vous ne devez pas être trop inquiet. Comme je vous dis, certaines allergies peuvent arriver, mais c'est extrêmement rare. Pour ce qui est du Guillain-Barré, encore là, c'est des phénomènes qui peuvent arriver. On ne croit pas vraiment qu'il y ait une association. Donc, ça date depuis l'histoire des vaccins. Donc, il y a toujours eu cette association possible entre Guillain-Barré et les vaccins. En ce moment, on n'est pas vraiment capable, justement, en mesure en fait, il n'y a aucune évidence qui suggère qu'il y a plus de cas de Guillain-Barré chez les personnes qui reçoivent les vaccins versus les gens, évidemment, contrôle. Alors, donc, encore là, okay, ne soyez pas inquiets outre mesure. Les vaccins demeurent sécuritaires. Et rappelez-vous qu'il y a eu plusieurs phases cliniques là, qui ont été faites pour démontrer leur sécurité et évidemment leur efficacité.
Bon, et puis on doit se laisser. Benoît Barbeau, c'est déjà la fin de l'émission. J'ai reçu un autre courriel de quelqu'un qui a eu la COVID, qui a eu son vaccin et qui l'a réagi très, très fort. Je pense que ça peut être un petit peu prévisible. Dites-moi juste oui ou non.
Oui, en effet. Ben, c'est une très bonne évidence que votre vaccin fonctionne.
Bon, ben écoutez, merci beaucoup. On est désolé pour Pascal qui se sent pas bien, mais ça va se passer. On s'arrête le temps de la pause. De retour avec deux autres sujets après.